Chers amis, toujours en retard, comme d'habitude, n'est-ce pas? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui à jamais. Alléluia, alléluia. Psaume 62, chère Annette, psaume 62. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère, c'est-à-dire... On ne peut pas quand même être présomptueux. Je ne changerai certainement pas très souvent. Je serai ferme, solide, mais Seigneur, tu sais bien, il y a toujours des limites. Tu verras, tu me relèveras. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Cherchez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche, ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Espérance, certitude, n'est-ce pas? Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Alors, c'est quand même formidable qu'à ce verset 8, regardez ce qui est dit. Sur Dieu repose mon salut, donc d'être en communion avec Dieu pour l'éternité, et deux, ma gloire, la réalisation plénière de ma vie et le resplendissement de mon être dans la divine présence de Dieu. Donc, ma gloire, c'est quand même formidable, une telle conviction. J'espère que vous l'avez, chers amis. Sur Dieu, psaume 62, verset 8. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge sont en Dieu. Le rocher, c'est le nom qui est donné à Christ, à Dieu, dans l'Ancien Testament, mais c'est Christ. Donc, le Christ de ma force, le Christ de mon refuge, sont en Dieu le Père. Voilà, si vous voulez que je traduise pour vous. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence, Dieu est notre refuge. J'étais en visite aujourd'hui après-midi à une dame qui est souvent... elle a sa foi. Une dame qui a... parfois des tourments, qui est énervé, agacé par des tas de choses, très émotionnel, hein, Et cette personne-là, si vous voulez, je lui disais qu'il fallait se tourner vers le Seigneur tous les jours, à tout bout de champ, et déposer tout au Seigneur. Et je relis ce verset. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Psaume 62, verset 9. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Répandre son cœur, c'est tout vider. C'est tout sortir. C'est lui parler. Bon, vous pouvez être seul dans votre cuisine, dans votre salon, dans votre chambre, dans l'auto, au jardin, dans la forêt, et lui parler. Et sortez tout. Confiez-vous à lui, il vous entend. Mais sachez bien, il vous écoute et vous devrez aussi l'écouter. Et pour l'écouter, eh bien, il faut lire l'Évangile tous les jours. C'est là qu'il vous parle. Oui, verset 10, vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme. Donc, dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Une balance comme on avait dans le temps, là, avec deux plateaux, on mettait les légumes et tout, et puis on mettait des poids de l'autre côté. Eh bien, dans les magasins, eh bien, cette balance, si vous voulez, on mettrait tous les hommes dedans, on mettrait Dieu de l'autre côté, boum, ils sont expédiés. La vanité des hommes n'a pas de poids devant Dieu, n'a pas de valeur. Ne vous confiez pas dans la violence des hommes. Ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. S'accrocher, prendre des sous partout où on peut, etc. Honnêtement ou malhonnêtement. C'est ça la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Quand le porte-monnaie, le compte en banque, etc. s'accroissent, attention, n'y accrochez pas, n'y attachez pas votre cœur. Ça, c'est difficile. Chers amis, c'est pour ça que quand j'avais 22 ans dans ma chambre, 22, 23 ans en théologie, je me rappelle une fois, au mois de septembre, 9 septembre, en 1970, ou 11, à 6 heures du soir, j'ai dit au Seigneur, mon Dieu, il y a tellement de pauvres quand je visite la ville, quand je prends le train et je regarde dans la gare. S'il me reste 1,5 € dans ma poche, donc 60 francs, 50 francs belges dans ma poche pour vivre, c'est assez. Le reste, je le partagerai, je te ferai confiance, tu me donneras toujours ce qu'il me faudra pour vivre. Naturellement, ça ne m'a pas empêché d'être courageux, de me battre, de travailler. Mais ce qu'il y a, les richesses ne m'ont jamais intéressé. L'argent est un moyen pour aimer, pour servir, et l'argent appartient à Dieu, pas à nous. Autrement, le diable nous guette, il va gagner notre cœur et l'endurcir, et faire de notre cœur un lieu de tourment, de difficultés intérieures, impossible à surmonter. Celui qui a dans son cœur l'amour de l'argent ne peut pas avoir la paix de Dieu. C'est impossible. Ça s'appelle la cupidité. Les cupides n'héritent pas le royaume des cieux. Verset 12, Dieu a parlé une fois. Deux fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon tes œuvres. La force est à Dieu. Si je lis Éphésiens 6, eh bien, Éphésiens 6, la force est à Dieu, oui. Vous pouvez puiser de la force tous les jours. Une vraie force, une force qui n'est pas artificielle, qui est divine. Qui est divine. La même force qui a créé l'univers, qui tient les astres et les planètes, qui fait battre votre cœur tous les jours, qui fait couler votre sang à travers tout le corps en 8 secondes, qui fait tourner la Terre à 473 mètres secondes, donc plus de 18 000 km heure. À l'heure, la Terre tourne à une vitesse dingue. Bien, cette force est aussi donnée à celui qui croit en Jésus-Christ. Chapitre 6 d'Éphésiens, verset 10. En conclusion, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car dans notre vie sur terre, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les humains et contre l'hérédité, etc., les problèmes de famille, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, contre les démons et Satan. Il faut donc savoir rester ferme et solide grâce à Jésus-Christ. Dans ce cas-là, au verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi en Jésus-Christ, pas la foi en soi-même, la foi dans la religion qu'on a reçue, la foi en la personne de Jésus, qui est mort pour moi, pour vous, sur la croix, qui est ressuscité, qui est vivant, qui est au ciel et qui reviendra. » Bientôt. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Voilà. Le psaume 62 nous dit, au verset 12, « Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. » En plus de la force et de la puissance, Dieu a un trésor de bonté qu'il peut me partager pour faire de mon cœur un vrai cœur, pas un tas de pierres endurcies. Alors, j'ai médité ces psaumes, je les trouve formidables, je trouve que la richesse de communion entre David et Dieu était incommensurable. Le Saint-Esprit a vraiment baigné l'âme, les pensées de David d'une manière fantastique. Psaume 65. Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Psaume 65, verset 3. Vous savez que tout cela, ça me fait du bien et j'espère à vous aussi. Bon, aujourd'hui, j'étais parti vers Arlon, vers Messancy, vers Longwy. Je suis rentré, travaillé dans la maison avec Pierre William et ma femme, puis chercher Marie-Jeanne Fougerat qui venait de Champigny, au train, à Longuyon. Et voilà, je suis avec vous. Mais en observant tous les hommes, partout, dans les magasins, sur les trottoirs, etc., je les croise, et ils me croisent aussi. Je me dis, mais ils n'ont pas envie de Dieu, hein. Ils s'en passent très bien, hein, mais royalement. Hein. Qu'est-ce que leur cœur est dur. On le voit à leur visage. Et on voit que c'est simplement sur terre, avec exigence, qu'ils désirent trouver leur bonheur. Et on ne sent pas cette paix de Dieu. On ne la voit pas. Et on ne voit pas cette quête de Dieu. Eh bien, pourtant, dans l'activité intense du Saint-Esprit qui s'est faite dans le cœur de David, il y a un dépôt qui nous est donné au psaume 65, verset 3, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Tous les hommes viendront à toi. C'est une certitude. Soit pour être jugé et rejeté, soit pour être accepté éternellement. Mais, « Ô toi qui écoutes la prière », ça veut dire « Je vais prier pour tous les hommes, parce que je désire que tous ces hommes-là viennent à toi. » Ce n'est pas simplement un beau mot, une belle phrase. « Je m'engage dans la prière, ô toi qui écoutes la prière. » C'est un homme qui sait prier qui dit ça. Donc, il s'engage pour que les hommes viennent à Dieu. Chers amis, je vous souhaite cette noble vocation de la prière, pour que tous les hommes, même ceux dont vous pourriez penser qu'ils ne vont jamais y venir, ils viendront à Dieu. Dieu est plus malin que nous pour les attraper, rattraper ces brebis dispersées partout, au cœur égaré. Psaume 65, verset 4. Les iniquités m'accablent, donc des péchés commis volontairement, alors que je savais bien que Dieu me l'interdisait. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Ah,
Formidable.
Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis, nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Tout à l'heure, quand je suis rentré vers 3 heures, j'ai pris le temps de manger un peu, et puis je me suis changé pour aller travailler. Puis un petit garçon de 11 ans est venu me trouver en disant, il m'avait dit il y a 2 jours, je voudrais te baptiser. Bon, j'ai promis de le voir la semaine prochaine pour préparer. Une de nos filles a déjà préparé amplement, mais voilà. Et d'autre part, il me dit, je voudrais bien faire connaître Jésus aux autres, je voudrais bien évangéliser. J'ai gagné un peu d'argent en travaillant à 11 ans. Je voudrais acheter des évangiles pour les distribuer à tous mes copains. Regardez le cœur de ce garçon. Et je dis, mais écoute, viens avec moi dans l'armoire en bas, chez nous. Il y a une armoire de notre église, il y a des évangiles, on a déjà acheté, mais il dit, c'est pas exactement des évangiles que je veux, c'est des petits papiers qui expliquent bien l'amour de Jésus pour les hommes, pour les, mes copains, mes copines. Bon, ça, on peut les acheter. Ça, je te donnerai des adresses, je t'expliquerai où il faut trouver ça. Mais voilà, ici, il y a des centaines de petits évangiles, tu pourras mettre un évangile de Matthieu, ou de Marc, ou de Luc, ou de Jean, avec tes papiers. Il était tout content. Et écoute, je vais te dire que quand je distribue, un jour j'ai fait avec 2 autres personnes tout long, oui, et ça m'a pris 2 semaines, tellement il y a des rues, hein, et maintenant j'ai mal aux genoux. Si tu veux, au mois de septembre, je vais de nouveau le refaire, probablement Virton, Aide, les villages ici. Si tu veux, tu peux m'aider. Parce que moi, j'ai pris de l'âge. Plus tard, même quand je serai mort, tu pourras continuer. Alors, cet enfant est tout content que je lui dise qu'il pourra distribuer avec moi la parole du Seigneur. Le verset 5, psaume 65, verset 5, « Heureux celui que tu choisis, que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. » Cet enfant est déjà dans la présence de Dieu. Il est déjà uni à lui, dans l'amour. Je reçois, il y a ça 4-5 jours, une belle petite lettre d'une petite fille de 9-10 ans qui est au Portugal et qui dit à ma femme et à moi des mots extrêmement gentils, très bons. Et qu'est-ce qui se passe? Elle souhaite nous revoir, elle aime Dieu et c'est quelqu'un qui est appelé par Dieu. Moi, je l'étais quand j'étais petit, alors que mes parents ne voulaient pas comprendre, et ils ne cherchaient pas à comprendre. Ils observaient l'oiseau rare qu'ils avaient parmi les 4 enfants qui cherchaient Dieu. Mais en attendant, je dis, et ça lui passera. Hein, il faudra bien faire comme les autres, il faudra qu'il aille travailler, il faudra qu'il gagne des sous, hein, il fera comme tout le monde. Hein. Oui, ben, courez toujours, je n'ai pas cédé. Oui? Je peux travailler, je sais travailler. C'est pas pour ça que mon cœur pour Dieu doit être mis à la poubelle. Et donc, cet enfant de 11 ans qui veut aller évangéliser avec moi, c'est magnifique. Cet autre enfant de 9 ans, 10 ans, du Portugal, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a ce même souhait, cette même flamme d'amour pour Dieu. Je n'en sais rien. C'est pas moi qui l'ai créé, cette flamme d'amour. Dieu appelle. C'est pour ça que le psaume 65, verset 5, est très important, chers amis. Si vous êtes parents, si vous êtes un grand frère, une grande sœur, et que vous voyez quelqu'un qui a cet amour-là pour Dieu, c'est grave si vous éteignez cet amour, cet appel. Jésus a dit, attention si vous scandalisez les petits-enfants, il vaudrait mieux pour vous ne pas être né. Il vaudrait mieux pour vous d'être jeté dans la mer avec une meule, une grosse pierre de moulin, on écrase la farine, que d'être né. Chers amis, faisons attention. Jésus a des paroles très sévères sur ceux qui se mettent contre son appel dans la vie des enfants. Sur les 26 enfants qui étaient au camp, les 9 moniteurs, c'est quand même formidable, il fallait des traductions, donc C'est du boulot tout ça. Quand on a des enfants de différentes langues, c'est beaucoup de boulot, il faut des traducteurs, ça développe une énergie. Les enfants de 4 ans à 14 ans, c'est pas la même chose. Donc il fallait 9, c'était pas de trop. Eh bien, sur les 26 enfants, il y en a au moins 18 ou 19 qui ont littéralement, personnellement, cherché à donner leur vie au Seigneur. Quelle belle récolte, chers amis. Que vont faire les adultes quand ils voient y arriver leurs enfants chez eux, qui ont une flamme dans le cœur, une telle flamme? Vont-ils jeter des seaux d'eau, de la neige carbonique dessus, ou vont-ils les écouter, les encourager, les aimer dans leur élan pour Dieu? Alors, psaume 65, verset 5, heureux celui que tu choisis, que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Et je pense qu'il y a des enfants qui ont compris. Quand ils aiment Dieu et qu'ils font quelque chose pour Dieu, hein, soit devenir occulte, soit chanter avec des autres chrétiens, soit distribuer des évangiles, soit rendre service, mais parce que Jésus leur demande, leur âme est déjà rassasiée. Il y a quelque chose qui... Il y a le Saint-Esprit les comble déjà. Ils font l'expérience, non pas du manque, mais déjà de la nourriture divine que Dieu leur donne dans leur âme. La connexion est établie. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Ce n'est pas un temple de pierre. Oui, dans le temple, pour les Juifs. Mais la sainteté de ton temple, c'est la sainteté dans mon cœur. C'est moi le temple. C'est vous le temple. Si vous avez donné votre vie à Jésus, c'est vous le temple. Mes chers amis, ne croyez pas que le temple, c'est un tas de pierres, une basilique, une cathédrale, avec un monseigneur ou une grande croix, un clocher, ou une mosquée, ou je sais pas quoi. Non, ce n'est pas du tout cela. Je ne peux pas aller au téléphone, il y en a toujours pour essayer. Au moment où je suis dans le message, c'est un peu dommage, mais... Alors, premier aux Corinthiens, chapitre 6, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix, donc le prix de la croix. Glorifiez-vous donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. C'est là le temple pour celui qui a donné sa vie à Jésus. C'est là le temple. OK? Est-ce que vous pouvez ne pas oublier que la vraie temple, la vraie maison de Dieu, c'est dans l'âme, le cœur humain et dans le corps humain qui appartiennent à Dieu. Ne détruisons pas, s'il vous plaît, ce que Dieu fait dans le cœur de nos enfants. Combien de fois j'ai dit à ma mère, jusqu'au moment où elle se convertisse, évidemment, à 94 ans, 94 ans, qui avait été contre. Hostile à l'évangile, hostile à cet appel de Dieu dans ma vie, depuis que je suis tout petit. Combien de fois j'ai dit, Maman, si je n'avais pas aimé le Seigneur, où serais-tu maintenant? Tu aurais été dans une maison de retraite, tu serais morte avec le Covid, isolée dans une chambre. Et tu vois bien que les autres dans la famille t'auraient laissé là. Nous, nous t'avons pris. Nos enfants t'aiment, nous chantons des chants, nous aimons le Seigneur. Notre amour pour le Seigneur et notre amour pour toi, c'est les deux mains dépendent de notre cœur qui appartient à Jésus. Alors, maman, quand vas-tu comprendre que la chance de ta vie, c'est qu'un de tes enfants a aimé Jésus, malgré que tu ne voulais pas, et que finalement, tu es aimé à cause de Jésus. Elle avait un caractère extrêmement fort, fortement têtu, je vais dire comme beaucoup de femmes. Mais ce qui a Le Seigneur a parlé quand même à son cœur avec un ami plombier qui est venu du sud de la France et qui un jour est passé là, tout près d'elle, et qui lui a parlé. Et elle a donné sa vie à Jésus. Elle n'était plus la même après, hein, plus du tout. Elle venait au culte, elle venait aux réunions bibliques, elle écoutait tout, elle s'intéressait à tout. Et on a pu se quitter, lorsqu'elle a rendu son dernier souffle, en paix, en chantant et en lisant des psaumes. Nous la reverrons dans la gloire du Seigneur. Nous la reverrons. Alors le psaume 65 est plein de richesses. Heureux celui que tu choisis, que tu admires ta présence, même si c'est 2 mois, 2 heures avant la mort, ou 6 ans avant la mort. Mais c'est encore mieux si c'est à 9 ans, 8, 9 ans. Pour qu'il habite dans tes parvis, donc dans ta présence royale. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. En sachant que le temple de Dieu, le meilleur qu'il aime, le meilleur temple, c'est moi-même. Je suis le temple où il veut habiter. Non pas pour que je sois orgueilleux, mais pour que je sois humble et obéissant et aimant, hein, à son égard. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il y a toujours un signe de Dieu pour vous montrer quelque chose. Mais il faut le voir. Moi, ça fait des mois que j'ai mis du mazout. J'ai plein de réfugiés à la maison. J'ai demandé très peu en leur disant, mettez tout de côté pour pouvoir vous louer un appartement et vous loger. Et apprenez le français. Moi, du moins que je paye l'assurance, l'eau, l'électricité, c'est tout. 80 euros par mois. Alors, c'est un défi de ce que le gouvernement français et belge dit qu'on peut demander beaucoup plus. N'est-ce pas? Alors, eh bien, la cuve à mazout qui sert pour l'eau sanitaire, l'eau de l'évier, de la vaisselle, etc., et de la douche, la jauge de la cuve à mazout, ça fait 5 mois qu'elle a la même hauteur. Je l'ai dit à toute ma famille, regardez, voilà un signe de Dieu. J'aurais demandé 150 ou 200 euros à chacun, la jauge serait déjà en bas. J'aurais déjà dû dépenser tous les sous qu'il m'aurait donné pour remplir la cuve. Voilà un signe de Dieu. S'il vous plaît, ne soyez pas aveugles, Dieu est vivant et regardez comment il nous encourage à être bons envers les autres et ne pas regarder à nos petits sous. Et c'est ça que je voudrais dire. Quand la force est dans le Seigneur, on est bien plus conscient de ce que Dieu fait pour nous. 65, verset 6. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer, donc des humains. Il a fermé les montagnes par sa force, il est saint de puissance. Il a fermé les montagnes, c'est-à-dire les nations, il donne la foi. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Les mers représentent le chaos des hommes dans le péché, n'est-ce pas, sans Dieu? Eh bien, le mugissement des peuples enragés, furibards, qui se battent. Et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effrayent de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des puits, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées, les collines sont saintes d'allégresse. Les collines, c'est-à-dire les peuples, les peuplades, les tribus, les ethnies, etc. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment, les cris de joie et les chants retentissent. Pour qu'il y ait la pluie, pour qu'il y ait cette abondance de bénédictions, il faut se remettre à honorer Dieu. Maintenant, il serre la vis. Notre orgueil, elle va trop loin. Notre orgueil va trop loin. Et c'est un orgueil communautaire, collectif, contagieux. C'est pire que le Covid. Chers amis, qu'est-ce qu'il faut dire à propos d'un petit garçon qui vient vous dire « Je veux être baptisé et je veux évangéliser. Je veux aller porter à tous mes amis des traités, des évangiles. » N'a-t-il pas compris qu'il y avait une urgence pour ses amis, qu'il était temps qu'ils n'écoutent plus le monde, mais qu'ils écoutent le Seigneur Jésus qui les aime? Vous voyez, il est clair qu'un enfant peut être un bon instrument de la grâce. Je vous ai déjà raconté souvent cette histoire du marquis de Zinzendorf, un marquis extrêmement riche de Bohême, de Moravie, qui était dans une église protestante d'Allemagne. Il y a une immense peinture de 4-5 mètres de hauteur sur 4 mètres de large. Et on voit un Jésus en croix et qui regarde. Et c'est une très belle image de Christ en croix, je trouve. Et il s'est mis en dessous en allemand. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Et puis le Christ dit, et toi qu'as-tu fait pour moi? À celui qui regarde la peinture. C'est bien sûr le peintre qui a mis ça, hein. Mais il a voulu dire quelque chose. Le regard de Jésus est tellement puissant, tellement bon en même temps, tellement saint, plein d'amour. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Je suis mort pour toi sur la croix. Et toi qu'as-tu fait pour moi? Le marquis, qui était un coureur des femmes, un bonhomme invétéré qui aimait l'argent, qui était un sot de première espèce, comme il y en a plein sur la planète, eh bien, il était là, une petite fille était à côté, de 8-9 ans. Il dit, monsieur, qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Alors, il lui lit les phrases, regarde ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi? Et la petite fille après, quand le monsieur lui a traduit, parce qu'elle était tzigane, gitane, elle ne savait pas lire, la petite fille dit au monsieur, « Et toi ?» Dit monsieur, « Toi, t'as fait quelque chose pour Jésus ?» Cet homme est rentré chez lui et s'est converti pendant la nuit. Il a partagé toutes ses terres, il a fait venir plein de réfugiés persécutés, des milliers. Et il a adopté une vie de prière, une vie de fréquentation dans la parole de Dieu. Et tous ces gens qui étaient là persécutés étaient des croyants, persécutés par le catholicisme et par les autorités civiles à cette époque-là. Et bien pratiquement, ils ont décidé un jeûne de 100 ans, un jeûne et prière de 100 ans, c'est-à-dire à tour de rôle par équipe pendant 100 ans. Et ils ont tellement eu de jeunes comme missionnaires à travers le monde, aux États-Unis, en Russie, partout, ils ont créé, ils ont envoyé l'évangile, ils ont créé la foi. Ou si vous voulez, ils l'ont transmis par leur bouche, par leur être, par leur consécration. Tout ça à partir d'une petite fille qui pose la question à monsieur de Zinzendorf. Alors, chers amis, si un enfant vous parle de Jésus, prenez-le au sérieux. Et commencez pas surtout à prendre ça pour une blague. Psaume 68. Psaume 68. Verset 9. La terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante au Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Moi, je pense que sur cette terre, actuellement, il y a un immense peuple de Dieu qui sera établi dans la bénédiction divine après que Satan et tous ses serviteurs auront été brisés. Et regardez bien, psaume 68, verset 12, « Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonne nouvelle sont une grande armée. Les messagers de bonne nouvelle, c'est des hirondelles? C'est des grues? Des oies sauvages qui partent? Les messagers de bonne nouvelle, c'est des cœurs d'enfants. Ce sont des gens qui ont accepté humblement Jésus. C'est eux les messagers de bonne nouvelle. Ils sont une grande armée, accompagnés des anges du Seigneur Jésus, bénis par le Seigneur. Lors du camp d'enfants, Pierre William a présenté le Sadhu Sundar Singh, un prince sikh qui aurait dû être un homme vénéré, très riche, très respectable, et qui a vu Christ durant une nuit. C'est un homme qui avait toutes les richesses, qui avait tout, et il n'était pas heureux. Et il avait dit à Dieu, je voudrais, si tu existes, te voir, te connaître. Sinon, je porte atteinte à ma vie. Il a vu Christ. Et il a vécu dans toutes les montagnes du Tibet et dans d'autres pays, Afghanistan, Pakistan, etc., à annoncer l'évangile. Et, bien sûr, c'est le chant de Sadhu Sundar Singh, c'est en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Si vous regardez un carnet de chants, c'est cela. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Donc le Seigneur dit une parole dans le cœur d'un enfant, dans le cœur de la petite fille qui a parlé au maquis Zizendorf, dans le cœur d'un tas d'autres, et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient. Se sauve, et celle qui reste à la maison partage le butin. Donc, la défaite des puissants mondiaux. Je vous ai expliqué lors des deux derniers messages. Verset 14. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. C'est un beau verset, magnifique. C'est plus que de la poésie, mes amis. C'est plus que des images. Tandis que vous vous reposez au milieu des étables, c'est-à-dire, tandis que vous vivez dans ce monde où ça pue, parce que les êtres humains se comportent comme des animaux, c'est ça que ça veut dire, je veux bien vous montrer dans 1 Corinthiens, ce qui précède, c'est l'animal, ce qui suit, c'est spirituel. Deux fois Paul le dit. Alors, tandis que vous vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent. La colombe du Saint-Esprit posée sur Jésus dans son baptême, annoncée dans Ésaïe, chapitre 42, verset 1. Et son plumage est d'un jaune d'or, l'argent étant la sagesse, l'obéissance à la volonté divine, et l'or, l'adoration pure et purée envers Dieu. Tandis que vous vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, son plumage est d'un jaune d'or. Alors, je vais juste vous faire une petite liaison avec le psaume 74, 74, au verset 19. Je fais un peu avant. Psaume 74, 74, pour les Belges. Verset 15. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage ton nom éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ben oui, on le voit. Hein? Le droit de blasphémer en République. Verset 19. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. Dans la Bible des Septante, en grec, quand vous voyez une bête comme ça, souvent, c'est presque chaque fois, c'est mis démonion, démon. Ne livre pas aux démons l'âme de ta petite créature qui t'a accepté, qui t'aime, qui s'est donné à toi, et qui dans ce monde n'a pas le moyen de contredire tous les méchants et les menteurs, et qui n'a pas, apparemment, n'a pas de force contre Satan, apparemment. Ne livre pas aux bêtes, aux démons, l'âme de ta sauterelle, donc de ce petit être fragile qui est devenu quelqu'un lorsqu'il s'est converti. Rappelez-vous que quand on n'est pas converti, on se croit fort. Quand on est converti, on découvre qu'on est faible. Et dans Romains chapitre 8, Paul dit que l'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse, qu'il pose des soupirs afin d'exprimer à Dieu le Père les besoins que nous avons et que nous ne savons pas, pouvons pas exprimer. N'oublie pas toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'Alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands, etc. Vous pouvez lire tout le psaume 74, c'est une perle. C'est magnifique. Toutes les révélations que Dieu fait à travers à l'œuvre du Saint-Esprit dans l'esprit de la pensée de David et qu'il a mis par écrit. Ça dépasse David largement tout ça. Retournons au psaume 68. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans les pays, la terre devint blanche comme la neige du Salmon. C'est sans doute l'Hermon. Alors, montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aussi mais nombreuse, montagne de Bazan, c'est une région d'Israël. Pourquoi montagne aussi nombreuse avez-vous de l'envie ? Contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence. Donc ici, on voit bien que montagnes aussi nombreuses, montagnes de Bazan, ce sont des gens de la région de Samarie qui sont pleins d'orgueil, qui jalousent Jérusalem. Pourquoi montagnes aussi nombreuses avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence, Sion, à Jérusalem, dans la tribu de Juda? L'Éternel, cependant, en fera sa demeure à perpétuité. Et oui, c'est là que Jésus va régner. Jésus sera là, à perpétuité, le roi des nations. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers, par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans les sanctuaires. Tu as monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as reçu des dons pour l'homme. Les rebelles habiteront aussi auprès de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et le Seigneur l'Éternel peut nous garantir dans la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Alors, chers amis, dans ce psaume 68, les chars de l'Éternel, c'est-à-dire toute l'armée des anges, est bien plus puissante que toutes les armées humaines et même les armées démoniaques qui sont sur terre. Et le Seigneur est au milieu de ces armées d'anges et il est au milieu de Jérusalem, en Sion, dans sa royauté. C'est ça qui est annoncé ici. C'est un psaume prophétique. Et le Sinaï est un sanctuaire. Le lieu où était révélée la loi, les 10 commandements dans le Sinaï, où Moïse était, il y avait des anges, énormément d'anges. La tradition juive l'indique bien. Et finalement, cette révélation faite à Moïse est largement dépassée, parce qu'il y a beaucoup mieux que le Sinaï, il y a beaucoup mieux que les 10 commandements, il y a le Christ qui a accompli parfaitement la loi, sans défaillance, sans péché, qui a accompli ce que Dieu avait demandé au Sinaï, et qui vient régner à Jérusalem, il est le nouveau Moïse, il est le nouveau Sinaï pour le monde. Quel beau psaume, les amis, quel beau psaume. Je ne peux pas tout lire, c'est trop long. Verset 30. Psaume 70, verset 30. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal des roseaux. L'animal des roseaux, c'est les veaux des peuples, hein, dans d'autres traductions. la multitude d'humains qui suit des chefs, ignares et iniques. C'est à peu près ça que ça veut dire. Épouvante l'animal des roseaux, le troupe des taureaux avec les veaux des peuples. C'est pour dire à quel point tout ce qui dirige actuellement le monde, aux yeux de Dieu, c'est pas tripette. Qui se prosterne avec des pièces d'argent, eh oui, hein, les comptes en banque, les multinationales. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Contre qui? Contre les enfants de Dieu. Contre Dieu. Et aussi bientôt contre Israël. Verset 32. Des grands viennent de l'Égypte. L'Égypte, l'Éthiopie accourt. Les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Alors, chers amis, finalement, tous ces gens qui se conduisent comme des veaux, comme des buffles, sots et méchants, eh bien, ils viennent vers Israël, les grands d'Égypte et les grands d'Éthiopie et tous les royaumes de la terre. N'est-ce pas beau? Nous avons affaire à un grand psaume prophétique. Et pour conclure, je lis le psaume 87, qui va tout à fait avec. Une seule pensée, une seule personne a guidé David. C'est pas au rythme des choses farfelues qui sont passées dans sa tête. C'est une seule personne qui a guidé la pensée de David pour tout ce qui est mis par écrit dans les psaumes. C'est le Saint-Esprit. Psaume 87. Et j'en terminerai là aujourd'hui. À propos, justement, de ce nouveau Sinaï, avec ce nouveau Moïse à Jérusalem, avec tous ces milliers de chars, ces milliers d'anges que Élisée a montré à Géasi, son serviteur. Et les anges et les chars de l'Éternel étaient bien plus nombreux que ceux du roi de Syrie. Élisée lui a dit, mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Chers amis, de quel côté serez-vous? Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Votre foi est un regard sur l'invisible. L'invisible bien réel. Psaume 87. Elle est fondée sur les montagnes saintes, Sion. L'Éternel aime les ports de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob, donc de toutes les autres villes, les autres localités, et même la Samarie qui faisait concurrence. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte, Babylone. Babylone, c'est donc la Syrie et l'Irak. Hein. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins. Philistins a été traduit par Titus, Palestina, Palestinien. Tyr, c'est la Phénicie, c'est le Liban. Avec l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est le Soudan, la grande Éthiopie de l'époque, avec l'Érythrée et Somalie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. C'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. La nouvelle humanité est bientôt là, à Sion. C'est là qu'ils sont nés, régénérés par le Saint-Esprit. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Chers amis, bonne soirée. Vos sources, vos ressources, les forces de votre âme sont en Jésus-Christ ou sont dans les mains de son ennemi. Choisissez. Si c'est Jésus-Christ, vous le verrez, vous aurez la paix. Vous aurez la force, vous aurez la joie. Je n'ai pas dit la tranquillité. Je n'ai pas dit la facilité. Mais la force, la paix et la joie. Et si vous n'êtes pas dans les sources divines, vous êtes dans des autres sources d'eau polluée qui vous empoisonnent petit à petit. Et le diable sait très bien nous empoisonner la vie. Mes chers amis, choisissez le bonheur en Jésus-Christ. la paix en Jésus-Christ. Que la paix de Jésus soit sur vous. Amen.